RFI. RFI à Damas et Moscou, il est 9h, 8h à Paris.
Andréane Mélard.
Mais non, pas du tout. Il est 7h à Paris et 6h en temps universel. Bonjour Marion Cazanov.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, l'espoir d'un retour au calme en Syrie.
Après de sanglants combats dans l'Ouest, la présidence a annoncé la fin de ses affrontements contre des fidèles du président déchu. Mais aussi un accord qu'on n'attendait plus cette fois avec les Kurdes et qui prévoit de les intégrer dans le nouvel État syrien. Des efforts diplomatiques également au Qatar et en Arabie Saoudite. Au Qatar, pour poursuivre la trêve entre Israël et le Hamas. En Arabie Saoudite, pour poser les bases d'un cessez-le-feu en Ukraine, on est à Kiev dans ce journal. L'ingérence américaine décuple les volontés d'indépendance au Groenland qui organise aujourd'hui des élections législatives. Et puis dans ses costumes toujours bien taillés, le commissaire Kwame est de retour. Le policier ivoirien, héros de bande dessinée, revient pour de nouvelles aventures dans un troisième tome haletant.
En Syrie, la fin de 4 jours de sanglants combats dans l'ouest, dans un bastion alaouite.
Les forces de sécurité syriennes laissent derrière elles un bain de sang. Plus de 1000 civils tués, en majorité alaouites, la minorité dont est issu le président déchu Bachar al-Assad. Le président par intérim, Ahmed al-Shara, poursuit ses efforts pour unifier le pays. Il a annoncé aussi hier un accord avec les Kurdes des FDS, les forces démocratiques syriennes, qui gèrent l'administration autonome du nord-est. Cet accord prévoit de les intégrer à l'État syrien. Et il a été accueilli par des scènes de liesse dans cette province, comme à Hasakeh. Reportage de Marie-Charlotte Roupie.
Le ciel noir de Hasakeh se strie d'étincelles rouges, des tirs de célébration en provenance des 4 coins de la ville. Un accord avec Damas a été passé, des milliers d'habitants du nord-est syrien laissent éclater leur joie. Un groupe d'adolescents se met à danser.
Un accord, ça veut dire la paix. Le calme va revenir. Et si Dieu le veut, tout ira bien.
On est heureux d'en avoir fini avec cette guerre civile, sectaire. Maintenant, c'est une Syrie unique.
Une clameur s'élève quand arrive sur la place le drapeau révolutionnaire. L'accord signé entre les autorités du nord-est syrien et Damas garantit la représentation politique de tous, la reconnaissance des droits des Kurdes et comprend l'intégration des forces politiques et militaires du nord-est aux institutions nationales. Mais ici, ce qui compte par-dessus tout, c'est l'accord pour un cessez-le-feu sur tout le territoire. Sa loi, la 60aine, résume.
Nous avions peur que le sang coule, des tueries, d'être déplacés. La Syrie est fatiguée. Ça fait 12 ou 13 ans, tout le monde est fatigué, arabe comme kurde.
Plus discrets, certains ont observé les festivités avec prudence depuis leurs fenêtres, en attendant de connaître les conséquences de cet accord pour les zones kurdes. 8 comités ont été créés pour en superviser l'application et les négociations continuent à Damas. Marie-Charlotte Roupie, Hasakeh, RFI.
Et pour le chef des FDS, cet accord avec le président syrien est une vraie occasion de construire une nouvelle Syrie.
Toujours au Proche-Orient, la fragile trêve entre Israël et le Hamas.
Une délégation israélienne est arrivée hier à Doha, au Qatar, pour la reprise de négociations. Et dans le même temps, Israël maintient la pression sur le groupe islamiste pour la libération des otages à Gaza. L'État hébreu a coupé le courant dans l'enclave palestinienne et bloque depuis une semaine maintenant l'arrivée de l'aide humanitaire. Les pénuries se multiplient et elles se font ressentir, comme en témoigne cette Gazaoui jointe par Sami Bourkhalifa.
Dès que Netanyahou a décidé de fermer les passages, les prix ici augmentent d'une façon trop difficile.
Dans le sud de la bande de Gaza à Khan Younes, Asma, autrefois professeure de français, constate impuissante la flambée des prix. Du simple au double, tout coûte plus cher, sucre, farine, fruits, légumes.
La majorité des gens ici ne peuvent pas vraiment acheter ni de la viande, ni poulet, ni... C'est déjà introuvable maintenant, ça fait 2-3 jours, il n'y a plus au marché.
Israël a également coupé le courant. Avant la guerre, 12 lignes électriques alimentaient Gaza. Quasiment toutes ont été détruites par les bombardements. La dernière, toujours en marche, alimentait une usine de dessalement d'eau de mer et une station de traitement des eaux usées. Ça ne change rien à mon quotidien, dit Asma. Même avant la guerre, les Gazaouis utilisaient surtout des générateurs électriques qui fonctionnent au fioul et des panneaux solaires. Par contre, la pénurie actuelle de gaz affecte lourdement la population.
Vraiment, il y a une crise de gaz, il y a plein de bouteilles de gaz sont vides. Les gens sont obligés d'allumer des cartons, des choses comme ça pour avoir de feu, pour qu'on puisse faire la cuisine.
Conséquence, le pain devient une denrée rare à Khan Younes.
Le pain, il y avait quelques boulangeries de travail. presque, ça fait 2 jours, ils ont fermé parce qu'il n'y a pas de gaz.
J'ai encore de la farine, je peux faire mon propre pain, confie Asma, sans savoir combien de temps elle pourra tenir sur ses réserves. Samy Bourklifa, Jérusalem. RFI.
Ce matin, l'Arabie Saoudite et le Qatar condamnent la coupure d'électricité à Gaza.
L'Arabie Saoudite qui accueille des discussions aujourd'hui sur la guerre en Ukraine.
Une délégation ukrainienne rencontre une délégation américaine à Jeddah, en Arabie Saoudite. Donc, elles discuteront d'un plan de cessez-le-feu partiel, mais surtout vont renouer le dialogue après la désastreuse altercation qui avait opposé les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche. On retrouve à Kiev notre correspondante Emmanuelle Chaz. Emmanuelle, dans quel état d'esprit aborde-t-on ces discussions de Jeddah en Ukraine ?
Eh bien, écoutez, du côté de la population, la désillusion envers les États-Unis est grande. Depuis la pause à durée indéterminée de l'aide américaine, les Ukrainiens vivent la politique étrangère de Washington et son alignement sur les buts de Moscou en Ukraine comme une trahison. Mais ils ont également conscience que c'est dans l'intérêt de Kiev de tout faire pour sauver la relation États-Unis-Ukraine. Volodymyr Zelensky rappelle que l'Ukraine est reconnaissante et prête au dialogue. Le président ukrainien a notamment affirmé que la position de la délégation ukrainienne était constructive et qu'il espérait un résultat pratique de ces discussions, alors que dans l'avion qu'il a mené à Jeddah, le secrétaire d'État Marco Rubio a averti que les États-Unis considéraient des concessions territoriales ukrainiennes comme inévitables. Alors cette question des territoires illégalement occupés par la Russie est majeure, puisque si l'Ukraine consentait à les abandonner, eh bien elle perdrait son intégrité territoriale. Autre dossier vers lequel les yeux des Ukrainiens se tournent, celle d'une trêve proposée par Kiev mais ignorée par Moscou, la signature de l'accord sur les terres rares et le retour des milliers de prisonniers de guerre ukrainiens toujours dans les prisons russes.
Emmanuelle Chaz en direct de Kiev pour RFI. La Russie, elle, dit avoir abattu 337 drones ukrainiens, dont 91 à Moscou. Attaque de drones massive donc cette nuit. Les autorités déplorent au moins un mort et 3 blessés dans la région de Moscou. Depuis le début de la guerre, il est rare que la capitale russe soit visée.
La guerre en Ukraine, la fin de l'aide américaine, l'Europe concentrée sur le renforcement de sa défense. On en parle juste après ce journal avec notre grande invitée internationale, Kersti Kaljulaid. Ancienne présidente d'Estonie, elle répondra aux questions d'Arnaud Pontus. Les États-Unis impliqués dans ces négociations de paix en Ukraine, impliqués aussi de plus en plus dans les affaires du Groenland.
À son retour à la Maison Blanche, Donald Trump a dit qu'il voulait acheter ce territoire autonome danois dont le sous-sol est riche en minerais. Des déclarations de plus en plus agressives où il a fini par dire qu'il comptait obtenir le Groenland d'une manière ou d'une autre. C'est dans ce contexte d'ingérence américaine que le territoire organise aujourd'hui des législatives dont le thème de l'indépendance est largement invité dans la campagne, comme l'explique Pia Bayol, anthropologue et chercheuse au Centre de recherche internationale de Sciences Po.
Jusqu'à présent, les sujets qui étaient mis sur le devant de la scène, c'était plutôt des sujets sociaux. Et là, les envies, enfin les velléités de Donald Trump, elles ont polarisé le débat sur la question de l'indépendance vis-à-vis du Danemark, c'est-à-dire maintenant ou pas, et aussi fait émerger tout un discours sur la colonisation et sur les impacts actuels de la colonisation au Groenland. Donc ces deux questions-là, indépendance maintenant ou pas et colonisation, ont polarisé le débat, alors que je pense que ça n'aurait pas forcément été le cas si Donald Trump n'avait pas fait émerger ce sujet-là, lui, par ses volontés impérialistes. Le parti au pouvoir Inuit Ataqatigiit, IA, ils étaient jusque-là pour un détachement plutôt lent et plutôt raisonné d'un point de vue économique, donc développer le tourisme et les mines. Mais là, c'est vrai que les annonces de Donald Trump ont poussé Mouté et Gill, le Premier ministre, à annoncer peut-être une indépendance plus tôt.
L'anthropologue Pia Bayol, propos recueillis par Daniel Vallot.
RFI 6h09 à Conakry, en Guinée. Les familles des victimes de la tragédie de Nzérékoré portent plainte contre les autorités de transition.
Le 1er décembre dernier, le stade de la ville a été le théâtre d'une bousculade meurtrière lors d'un match de football organisé à la gloire du général Mamadi Doumbouya. 56 morts selon le bilan officiel du gouvernement, au moins 140 selon un collectif d'ONG qui accuse les autorités de cacher la vérité sur les circonstances du drame. 98 familles ont donc déposé plainte hier pour une quinzaine d'infractions et crimes, notamment meurtre, homicide involontaire, omission de porter secours, mise en danger d'autrui et recel de cadavres. Elles visent ces plaintes les organisateurs du match, mais aussi les autorités guinéennes. Maître Paul Lazare Gbilimou représente des familles de victimes.
On a constaté qu'aucune enquête n'était véritablement ouverte. Aucune victime n'avait été reçue, aucun parent de victime également. Donc, sur accord de ces victimes et parents de victimes qui sont d'ailleurs en train de s'organiser en association, nous avons décidé de déposer des plaintes régulières. Ce qui est clair, c'est que des véhicules des officiels ont roulé sur des jeunes spectateurs qui étaient là. Le portail est tombé sur des gens. Le véhicule sont passés dessus. Et c'est là qu'il y a eu plus de morts d'ailleurs. C'est là qu'il y a eu plus de morts. Tous ces corps qui ont été transportés à l'hôpital, la majeure partie venait de là.
Vous m'avez aussi parlé de recel de cadavres, maître, c'est-à-dire ?
Des corps ont été envoyés au camp militaire, au camp de la 4e région militaire. Des corps ont été envoyés là. Et jusqu'à présent, on ne sait pas d'où sont partis ces corps. Parce que jusqu'à présent, il y a des parents qui n'ont pas les nouvelles de leurs enfants. Il y a des époux qui n'ont pas les nouvelles de leurs épouses, ainsi de suite. Donc, nous estimons que ces corps qui étaient au camp, ce sont ces corps-là qu'on ne retrouve pas jusqu'à présent. Alors que ces parents ne cherchent de réclamer les corps pour pouvoir au moins les enterrer de façon digne.
Maître Paul Lazar Bilimou avec Sidi Yansané. Le président ghanéen, lui, a terminé sa tournée des pays de l'AES au Burkina Faso. John Dramani Mahama devait tenter de convaincre le Burkina, le Mali et le Niger de revenir dans la CDAO, mais il en a profité pour travailler aussi les relations entre ces trois pays et le sien. John Dramani Mahama a aussi estimé, et c'est plus surprenant, que c'était à la CDAO de faire un pas vers les pays de l'AES. Aux Philippines, l'ancien président arrêté pour crime contre l'humanité, Rodrigo Duterte a été interpellé à l'aéroport de Manille et il est visé par un mandat de la Cour pénale internationale pour sa guerre meurtrière contre le trafic de drogue, une violente répression qui a fait des milliers de morts dans son pays lors de son mandat entre 2016 et 2022. On feuillette à présent une bande dessinée avec la sortie du tome 3 des aventures du commissaire Kwame, ce policier ivoirien, incorruptible et très élégant, dans un costume aux épaulettes démesurées. Ce policier donc enquête dans une ville française pour sortir sa nièce d'un trafic d'êtres humains. Un aperçu avec Sophie Torlotin.
Nerveux, cheveux blancs sous son Stetson bleu et toujours impeccablement vêtu, le commissaire Marius Kwame est chargé de retrouver un narcotrafiquant en fuite. Dans cet album à la fois pétaradant et très noir, Marguerite Aboué entraîne le lecteur dans les bas-fonds de la capitale ivoirienne.
Quand je vais à Abidjan, il y a tellement de... on appelle ça des wanches. C'est un peu une sorte de favela où il n'y a que des laissés pour compte en fait, complètement drogués. Même à Cocody, un quartier assez chic, et vous avez ces belles maisons. Et puis juste en dessous, c'est ces zones-là où plus personne n'y va. Et je me suis dit, mais c'est incroyable.
Ce n'est que le point de départ d'une enquête qui va entraîner l'incorruptible policier ivoirien sur la piste d'une filière de prostitution. Pour retrouver sa nièce, il va devoir se rendre à Angoulême, dans le sud-ouest de la France. Une idée qui a germé dans les têtes des auteurs lors d'un précédent festival de la bande dessinée.
Il y a 2 ans, lors de la sortie du commissaire Kwame 2, il y a le commissaire d'Angoulême qui fait la queue pour avoir une dédicace. Et puis il nous fait visiter le commissariat d'Angoulême. Donc je trouvais ça intéressant de faire justement se confronter les deux systèmes.
Et les méthodes d'interrogatoire qui diffèrent entre la France et la Côte d'Ivoire. L'enquête est menée tambour battant, mais s'achève sur un suspense qui donne envie de lire la suite.
Et l'album est intitulé « On ne fait pas de feu sous un arbre en fleurs ». Il vient de sortir chez Gallimard.
C'est noté, merci Marion Cazanov. C'était le journal sur RFI, 7h13 à Paris. L'heure de retrouver Antoine Grenier pour un nouveau journal des sports et en foot. Antoine, RFI passe en mode spécial ce soir à partir de 19h40 TU pour suivre les premiers huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions.
Avec un sacré casting à commencer par ce Liverpool-PSG à Anfield Road, l'heure de la revanche a sonné pour les Parisiens, battus contre le cours du jeu 1-0 au match aller. Et ça tombe bien, les remontadas. Luis Enrique, l'entraîneur parisien, connaît après 2017 avec Barcelone et la saison passée avec Paris. Il sait faire, mais n'allez pas croire qu'il aime ça.
Non, j'aurais préféré ne pas avoir à remonter 4 buts contre le PSG à l'époque. Mais dans ma carrière, même quand des choses vont mal, il y a des éléments qu'on peut tenter de maîtriser. Je trouve ça intéressant à gérer, j'ai la capacité de le faire. Mais bien évidemment que j'aurais préféré avoir un résultat positif au match aller.
Y sin freno, por decirlo de alguna manera, pero preferiría tener un resultado positivo.
Luis Enrique avec Cédric de Oliveira, Liverpool-PSG, début de la rencontre à 20h, temps universel à suivre donc en direct et en intégralité sur l'antenne de RFI à partir de 19h40 TU.
Et à la même heure, 2 autres matchs.
Inter Milan Feyenoord Rotterdam, les Milanais tranquilles après leur succès 2-0 du match aller, et Bayer Leverkusen Bayern Munich avec des Bavarois encore plus sereins, vu que la première manche a été à sens unique avec une victoire 3-0. Un peu plus tôt, le Barça reçoit le Benfica Lisbonne. À l'aller, les Catalans s'étaient imposés sur la pelouse des Portugais 1-0 grâce à un but de Rafinha. Mais rien n'est encore fait, estime l'entraîneur du Barça, Hansi Flick.
Benfica est une équipe qui joue très bien. Leur coach, Bruno Lage, fait du bon boulot. On peut voir sa philosophie et le style de jeu qu'il imprime. Nous allons devoir être à 100%. Cela n'a rien à voir avec le premier match. C'est le match retour et nous devons le gagner.
Hansi Flick, Barcelone, Benfica, coup d'envoi 17h45, temps universel.
En basket, la NBA, fin de série pour Oklahoma City.
Le leader de la conférence Ouest restait sur 7 victoires de suite, mais cette fois, OKC a plié face au duo Nikola Jokic, Jamal Murray, qui permet aux Nuggets de Denver de s'imposer 140 à 127 dans le choc entre les deux premiers. La bonne opération de la soirée, elle est pour Dallas, qui s'impose 133-129 sur San Antonio et devance ainsi les Suns de Phoenix à la 10e place. À l'Est, Boston, 2e de la conférence, s'impose 114 à 108 sur le Jazz de l'Utah.
Enfin, en tennis, Carlos Alcaraz n'a pas traîné sur les courts d'Indian Wells.
Moins d'une heure et demie, c'est le temps qu'il a fallu à l'Espagnol, double tenant du titre pour éliminer le Canadien Denis Shapovalov. Succès en deux manches, 6-2, 6-4 au troisième tour. Alcaraz, numéro 3 mondial, jouera en 8e de finale, soit contre le Bulgare Grigor Dimitrov, soit contre le Français Gaël Monfils. Les deux hommes s'affrontent, on en est au 3e set. Autre qualifié, Ben Shelton, l'Américain, qui a surclassé le Russe Karen Khachanov en deux manches, 6-3, 7-5.
Antoine Grenier pour le Journal des Sports. h 16 à Paris, notre rendez-vous aujourd'hui, l'économie. Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Andréane.
Avec vous, on s'intéresse ce matin à un sujet qui nous concerne toutes et tous, celui de la téléphonie mobile. Et si on en parle très précisément aujourd'hui, eh bien c'est parce que la grande messe annuelle de ce secteur vient de s'achever à Barcelone, en Espagne. Le congrès international des opérateurs mobiles, et ce qui a notamment occupé les esprits durant l'événement, Stéphane, c'est le retard des opérateurs européens face à leurs homologues américains.
Oui, retard visible ces dernières années, notamment en matière d'innovation, d'investissement et de déploiement de nouvelles technologies comme la fibre ou la 5G. Juste un exemple qui illustre cette situation, celui de la 5G justement. Elle a commencé à être déployée à l'automne 2018 aux États-Unis. Pour les Européens, il aura fallu attendre 2 ans de plus pour capter de la 5G. Et le continent n'est pas encore aujourd'hui entièrement couvert.
Comment expliquer cette différence ?
Alors, dans un premier temps, de par le visage du marché aujourd'hui sur le continent européen, il est très éclaté, fragmenté avec des dizaines d'opérateurs. On en compte à peu près 80, comme Orange, Vodafone ou encore Telefonica. La concurrence y est donc féroce et les prix sont en moyenne 5 fois moins élevés que les forfaits américains. Aux États-Unis justement, le marché du réseau mobile, lui, est dominé par seulement quelques grands acteurs internationaux. Ça se compte sur les doigts d'une main, citons par exemple T-Mobile, AT&T ou encore Verizon. D'après une étude publiée par le cabinet Deloitte le mois dernier au sein des membres de l'UE, le nombre moyen d'abonnés par opérateur, il est de 4,5 millions contre, tenez-vous bien, 95 millions aux États-Unis. Bon, en ordre de comparaison, Adrien, c'est 21 fois plus.
Alors pourquoi, Stéphane, les Européens ne se regroupent pas pour faire face aux Américains ?
Alors vous avez raison, la question est bien celle-ci. Les grands Européens aimeraient bien, ils l'ont même redemandé à la Commission européenne à la fin de l'année dernière. Mais il y a une subtilité, c'est l'un des cœurs de leur problème d'ailleurs, c'est que les fusions d'opérateurs mobiles sont très encadrées et très régulées au sein de l'Union européenne. Il n'y a pas de champions européens à proprement parler, mais des champions nationaux, oui. Pour faire simple, un petit opérateur national n'aura de facto pas les moyens d'investir, tandis qu'un gros opérateur national, lui, pourrait manquer de fonds pour le faire. Des fonds qu'il pourrait trouver dans sa fusion avec le petit. Un chiffre le prouve, hein. Depuis 2020, seulement 2 fusions d'opérateurs ont eu lieu en Europe contre 4 en Amérique du Nord.
Alors on imagine que les opérateurs européens ont leur stratégie pour exister.
Oui, hein, remarquant que leur taux de croissance sur le sol européen était atone, voire négatif, ils vont voir ailleurs en investissant sur d'autres marchés. Illustration avec le français Orange, leader européen sur le continent africain. Son activité au Moyen-Orient et en Afrique constitue à peu près 16% de son chiffre d'affaires total. Une tendance toujours à la hausse parce qu'Orange est implanté dans 17 pays du continent, mais aussi et surtout parce que le marché africain est l'un des plus dynamiques au monde. Car finalement, Andréane, derrière cette situation, il est surtout question de souveraineté des États européens, chacun souhaitant héberger son champion. Mais ça pourrait changer. Hein. Puis plusieurs rapports, dont le rapport Draghi sur la compétitivité de l'UE, préconisent de consolider le marché européen des télécoms avec des fusions de groupes. car en fait l'ambition c'est bien de trouver un savant équilibre entre compétitivité et règles de compétition.
Et pour aller plus loin sur ce sujet, vous pouvez retrouver le décryptage d'un spécialiste des télécommunications, Stéphane Lelux, sur notre site RFI.fr à la rubrique Aujourd'hui, l'économie. Merci beaucoup Stéphane Genest, il est 7h20 à Paris. L'heure de notre invité international en ligne avec nous ce matin pour répondre aux questions d'Arnaud Pontus, l'ancienne présidente d'Estonie, Kersti Kaljulaid.
Bonjour Kersti Kaljulaid.
Bonjour, bonjour Arnaud.
Merci d'être avec nous ce matin en direct de Tallinn. 11 jours après l'altercation publique entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump à la Maison-Blanche, les Ukrainiens et les Américains reprennent aujourd'hui le dialogue à Jeddah, en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous ?
Oui, c'est difficile de déclarer qu'on a des attendances de ces réunions parce que ministre Marco Rubio, il a déclaré que la position des États-Unis est d'obtenir des concessions des Ukrainiens pour arriver à Paris. Mais les Ukrainiens ont dit que c'est seulement possible de faire des concessions s'il y a une garantie des pays et sécurité pour eux. Donc les positions sont très très différentes. On va voir où on arrive.
Oui, on sait que les Américains souhaitent une paix, comme vous le dites, une paix rapide en Ukraine, sans doute avec des concessions de territoire. Est-ce que ça semble à l'Estonie, membre de l'OTAN, membre de l'Union européenne, quelque chose d'acceptable ?
Alors, je pense que ce n'est pas acceptable par principe. C'est à Tallinn ou à Paris, c'est pas la différence. En principe, c'est pas possible d'échanger un pays comme l'Ukraine qui a ses objectifs d'être membre de l'Union européenne. Ok, l'OTAN, c'est une histoire différente, mais c'est un pays qui veut choisir leur voie en futur. Ouais. Il faut supporter leur voix.
Il faut les soutenir.
C'est qu'ils ont choisi. Ouais.
Il faut soutenir l'Ukraine et ce que souhaitent les Ukrainiens.
Oui. Oui, les Ukrainiens souhaitent être un pays européen, pas occupé par un pouvoir russe.
S'il y a des négociations de paix, est-ce que les Européens doivent être présents aux discussions ? On n'y est pas encore, mais est-ce que ça vous semble nécessaire ?
Je pense que notre position qui ont offerte président Macron aussi Keir Starmer, c'est la correcte position. Nous sommes prêts à participer, mais pour participer, nous devons savoir quelles sont les conditions. En ce moment, ce n'est que juste un commencement de ces discussions. Donc, on va voir, mais je suis sûr que finalement les discussions vont aussi parmi les États-Unis et les Européens, c'est vrai.
Oui. Kersti Kaljulaid, en tant qu'Estonienne, est-ce que le rapprochement que l'on observe entre Donald Trump et Vladimir Poutine, est-ce que ce rapprochement vous inquiète ?
Je pense que je suis très très perplexe, comme par exemple beaucoup des Américains d'ailleurs aussi. Je comprends que pour Trump, par exemple, voter avec les Russes à l'ONU pour les amadouer n'a aucune importance, puisque l'ONU elle-même ne compte pas à ses yeux. Cela ne coûte rien, donc il est prêt à s'asseoir à la table de négociation pour réintégrer la discussion des pays dans ce jeu. Je ne sais pas ce qui se passera ensuite, je ne vais pas spéculer parce que c'est imprévisible. Par exemple, Lindsey Graham, il prépare de nouvelles sanctions, une républicaine du Congrès des États-Unis. Oui. Donc on ne sait pas, c'est vrai qu'il a vite humilié Vladimir Poutine pour quelques raisons. Est-ce que c'est un rapprochement ? Je ne suis pas sûr.
Vous n'êtes pas sûr que ce soit un rapprochement. Ça vous laisse perplexe, mais est-ce que vous pensez que les Américains, dans les conditions actuelles, sont encore les alliés des Européens, sont encore nos amis, nos soutiens ?
Je pense que, bien sûr, les Américains sont nos alliés, parce que nous ne pouvons pas nous défendre sans Américains. Donc, en ce moment, l'Europe reste le demandeur. Et c'est juste le fait. Nos armes ne peuvent pas fonctionner sans l'aide des Américains. Et c'est bien sûr un grand, très grand problème qu'on n'a plus de confiance. Si même les F-16, par exemple, les F-35 peuvent voler, si les Américains ne veulent qu'ils volent. Donc, oui. C'est une discussion importante. Mais en ce moment, je pense qu'il faut faire comme les Finlandais pendant la guerre froide. Ils sont discutés calmement avec les Russes, mais en même temps préparant leur armée pour être fort et pour être indépendante. Mais en ce moment, nous ne sommes pas indépendantes. Et c'est le problème.
Oui, c'est tout mais le problème, c'est que l'Europe n'est pas indépendante du point de vue de la défense.
Oui, et donc il faut moins discuter, c'est ce qu'ils font les Américains, mais penser davantage à nous-mêmes. Existe-t-elle ou non cette liaison avec les Américains? Mais une Europe indépendante et forte, qui n'a pas besoin de demander du soutien aux États-Unis, c'est très très possible parce que nous sommes une économie puissante.
Oui. Kersti Kaljulaid, les pays baltes sont en première ligne face à la Russie. Je rappelle bien évidemment que l'Estonie a une frontière commune avec la Russie à l'est. Est-ce que votre pays se sent en danger aujourd'hui?
Oui, pendant les périodes de crise comme on passe en ce moment, bien sûr, il y a des pensées qui sont plus noires que blanches chez nous. Mais aussi, il faut savoir que on a dépensé pour notre défense ici, les pays baltes, la Pologne aussi, Finlande, les autres pays du Nord, beaucoup d'argent. Nous dépensons plus de notre PIB que les États-Unis.
Oui, c'est par ça. L'Estonie dépense 3,4% de son PIB, de sa richesse nationale pour sa défense. Donc, c'est le pays européen qui dépense le plus en proportion parmi les plus, hein. C'est très important.
Et pour moi, c'est la question. Est-ce que vraiment, c'est pas un signal à vous, en France, à l'Allemagne et les autres pays de l'Europe? Ces pays ne sont ni grand ni riche, les pays baltes. Pologne, c'est un grand pays, mais pas un riche pays. Les Finlande, Suède, ils sont riches, mais pas grands. Donc, je pense que ce sera peut-être meilleur si tous les pays de l'Europe dépensent 3-4%, comme c'était, par exemple, pendant la période de guerre froide.
De la guerre froide. Il faut que les pays européens dépensent
trop demandé,
plus.
Oui. C'est pas trop demandé de vous, en fait, parce que nous sommes alliés. Et en ce moment, nous avons ces problèmes avec confiance les États-Unis et l'autre problème, que l'Europe qui dit qu'il n'a pas de confiance aux États-Unis, mais n'a pas encore commencé de dépenser considérablement plus pour défendre l'Europe indépendante.
Oui, vous appelez donc
c'est notre problème.
Vous appelez donc ce que l'on appelle les grands pays au sein de l'Union européenne à dépenser plus, à s'engager plus pour leur défense.
Oui, parce que je trouve que peut-être est-il juste, c'est pas juste que les pays nordiques et baltes dépensent plus.
Oui.
Mais vous, non. Où trouver l'argent, c'est bien sûr difficile, mais les règles de l'Union européenne, peut-être c'est possible maintenant de trouver d'argent décent. Aussi, c'est peut-être possible éviter de dépenser pour
les avoirs russes, peut-être en prenant aussi les avoirs russes qui ont été gelés. C'est une question
russes,
qui s'est posée.
Sûr. Oui, mais les avoirs russes vont nous aider à soutenir l'Ukraine, pas développer
notre propre armée.
Oui,
on a entendu en tout cas votre message.
Ça devrait venir de notre PIB. Mais c'est possible de le faire. Nous le faisons déjà. C'est pas simple, je peux vous assurer. C'est pas simple, pas du tout, mais c'est possible.
C'est possible et faites-le. C'est ce que vous lancez comme message ce matin sur RFI. Merci Kersti Kaljulaid d'avoir été en ligne avec nous ce matin de Tallinn, ancienne présidente d'Estonie. Merci beaucoup.
Merci et bonne journée.
Entretien avec Arnaud Pontus à retrouver sur notre site www.rfi.fr.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
prise en charge des traumatismes crâniens pour éviter les complications.
Demain,
dépression-exaltation, comment le trouble bipolaire agit-il sur l'humeur?
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Ce mardi sur RFI.
Pourquoi y a-t-il un temps pour tout?
Autour de la question avec Caroline Lachowski.
Dans notre monde ultra minuté, la maîtrise du temps est essentielle. Jusqu'où le mesurons-nous ? Peut-on manipuler le temps ? Interrogation partagée par le chercheur en informatique Gérard Berry, qui est aussi pataphysicien. Combien de temps dure l'espace d'un instant ?
Autour de la question, tout à l'heure à 14h10 TU sur RFI.
La chaîne WhatsApp de RFI compte désormais 2 millions d'abonnés.
Chaque jour, vous êtes de plus en plus nombreux à consulter sur votre téléphone nos résumés de l'actualité internationale, nos analyses et notre sélection des meilleures émissions de RFI.
Nous vous remercions pour votre confiance et votre engagement à nos côtés. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est simple. Allez vite sur l'onglet Actu de votre application et venez rejoindre la communauté WhatsApp de RFI.